et à eux depuis les mois de novembre. Elisabeth va nous parler du dire de l'analyse.
Bonsoir à tous. À partir du thème que nous avons choisi pour cette année, la parole et son dire, je me suis demandé si une analyse pourrait aboutir à la fin à faire exister un dire soi-disant nouveau. Si oui, comment pouvons-nous l'obtenir? Ce qui m'a fait envisager cette possibilité, c'est un passage de l'étourdi qui m'a toujours interrogé et que j'essaye depuis un bon moment de m'expliquer. Et je me lance ici donc dans une nouvelle tentative, cette fois-ci sous l'éclairage nouveau de ce que l'expérience de la passe m'a permis de vérifier. Je parle de la passe dans l'analyse, pas du dispositif d'école. Et aussi quelques réflexions dans un contexte sur comment se fait-il que dans une analyse, tout d'un coup, tout change radicalement pour un sujet? Cela peut se passer sans que lui-même, et probablement son analyse non plus, n'en puisse expliquer exactement les comment et les pourquoi cela s'est produit. Voilà ma question d'aujourd'hui. Le passage de l'étourdi auquel je fais référence et d'où j'ai emprunté par ailleurs les titres de mon intervention, les voici. Les dires de l'analyse, en tant qu'il est efficace, réalise la preuve antique qui de sa seule existence se distingue de la proposition. C'est ainsi qu'il met à sa place la fonction propositionnelle en tant que, je pense l'avoir montré, elle nous donne les seuls appuis à suppléer à l'absence du rapport sexuel. Page 46-47 de 6-7-4. Notons bien que Lacan emploie l'expression « les dires de l'analyse », alors que tout au long du texte, il distingue l'existence de deux dires opérant dans la cure, celui de la demande et celui de l'interprétation. Nous avons donc deux dires qui existent dans le processus analytique, en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Chacun d'eux existant à l'ensemble des dits proférés par les deux soi-disant acteurs du processus analytique. Les dires derrière les dits de l'analysant entendent, les dires derrière les dits de l'analyste, y compris son silence et interprétation. Deux choses en particulier ont attiré mon attention dans ces passages. Outre l'expression « les dires de l'analyse », premièrement, le fait que Lacan parle de l'efficacité du dire de l'analyse. Et c'est précisément cela qui m'a incité à me lancer sur la piste d'un dire résultant du processus analytique. Deuxièmement, le fait qu'il nous explique en quoi consiste cette efficacité, à savoir de mettre à sa place la fonction propositionnelle, c'est-à-dire dans phi de x, la jouissance phallique. La question est alors, comment y parvient-elle? Au début d'une analyse, l'analysant est convié à jouer le jeu du procédé analytique que l'on peut répéter avec Lacan. Allez-y, dites n'importe quoi, ce sera merveilleux. C'est la formule de l'association libre qu'il a mise à jour dans les séminaires d'envers de la psychanalyse. Est-ce que ce sera vraiment merveilleux? Oui, d'une certaine manière, c'est merveilleux. On s'y attelle des années durant. Il est certain que parler a des effets. Il y en a même beaucoup. Et cela n'a pas attendu la psychanalyse pour être su. Parler a cependant double tranchant. Comme l'avait déjà signalé Gorgias, le sophiste, le logos et un pharmacon, c'est-à-dire à la fois remède et drogue. Notre thème pour cette année a le mérite de mettre en relief la parole. On a tendance à se concentrer davantage sur la notion de dire, parce qu'il n'est pas évident de saisir la portée de cette nouvelle élaboration. Pour ma part, je m'arrête de me concentrer aujourd'hui sur les enjeux de la parole, car sur ces points, Lacan opère aussi un virage radical par rapport au début de son enseignement. En dépit de ces élaborations très poussées sur le réel et des nouveaux outils dont il se sert pour nous l'expliquer et qui vont du mathème à la topologie, la parole est le seul instrument de la pratique analytique. Qu'elle s'y veuille agent de guérison, de formation, la psychanalyse n'a qu'un médium, la parole du patient, disait Lacan dans Fonction champ de la parole du langage. Cependant, entre ce que la parole disait en fonction champ et ce qu'elle dit à la fin, il y a un monde. Martine Menez l'a évoqué lors de son intervention. Non seulement Lacan renomme l'inconscient par l'être, mais c'est surtout la thèse explicitée dans les séminaires encore qui incarne ces changements. L'inconscient, c'est que l'être, en parlant, jouisse. Il ajoute, ne veuille rien savoir de plus. Cette phrase concentre l'impasse contenue dans toute analyse, parce qu'elle change la perspective de ce que parler veut dire. Ce qui est d'ailleurs le titre dans l'ouvrage de Pierre Bourdieu. Si parler est aussi bel et bien jouir, on peut parler indéfiniment en analyse, sans entamer en rien la jouissance qui est impliquée. Les pourquoi on parle peut rester intact, oublié derrière ce qu'on raconte, qu'on déchiffre et qu'on ressasse. La parole est donc le nœud de notre affaire, car elle est en même temps le seul moyen de se faire analyser, mais aussi la source d'une jouissance qui peut prolonger indéfiniment l'analyse en pure perte. C'est pour cela que je pense que l'efficacité majeure de l'analyse est justement d'arriver à toucher cette jouissance-là, celle qui est liée à la parole. C'est sur ce terrain, celui de la parole et du sens, que l'on se bat, que l'on s'insurge contre la castration qui s'y réitère malgré nos efforts. Elle est la seule chose sûre que l'on peut obtenir de l'analyse. Cela est programmé dès l'entrée. Freud avait certainement raison en affirmant qu'à la fin de l'analyse, il y a bien un roc de la castration. Comme l'a mentionné Colette Solaire lors du dernier séminaire d'école. Lacan n'a jamais refusé cela. Ce qu'il a contesté, c'est que cela soit une butée. Je rajouterai aussi qu'il a modifié le concept de castration. L'analyse comporte donc un certain piège, car elle permet certes, en analysant, d'obtenir des effets thérapeutiques de cette pratique. Nul ne contestera que cela est très bien. Certains s'arrêtent même là, car ça leur suffit. Mais cette petite efficacité de la pratique dédiée peut aussi avoir comme conséquence que cette parole remède entretienne chez les sujets l'espoir que l'analyse pourra cesser tout ce que l'on compte. La thèse d'encore lie donc la parole à une certaine forme de jouissance, celle qui est liée au langage, si vous me permettez cette lapalissade, j'ai appris ces mots dans notre cartel. J'étais contente de passer. C'est-à-dire la jouissance valide de jouissance. Jouissance en deux mots. Cela, associé à la nature inépuisable de l'inconscient, qui travaille sans relâche et sans calculer pour la jouissance, rend évident pour moi qu'il n'y a pas de fin d'analyse possible sans que ces joints-là soient touchés. Autrement dit, que l'interprétation de l'analyse puisse délier la jouissance qui du sujet fait fonction et son inconscient. Délier étant l'essence premier du mot grec analysis. L'expérience analytique nous l'éprouve, l'inconscient qui travaille sans cesse pour la jouissance ne peut écrire que les 1 de la jouissance phallique. Des 1 qui ne se connectent pas entre eux de façon à faire accéder les sujets aux 2 qui lui permettraient les rapports. C'est ce qui montre l'épreuve quotidienne de la castration. On dit un bout de vérité par-ci, l'autre s'échappe par-là, on pense avoir trouvé un sens consistant dans l'analyse, un rêve les met à bas et on continue à chercher. C'est ainsi que la pratique de la parole en analyse peut alors entretenir cette jouissance liée au langage et on devient accro parce qu'elle supplée justement à l'absence du rapport sexuel. Dit Lacan dans ce passage que j'ai commenté tout de suite. On cherche désespérément à se faire représenter auprès de ces uns qui sont pourtant voués à être de l'un tout seul, là où se dirait le rapport. Certes, la psychanalyse permet au sujet de saisir quelques-uns de ces uns parce qu'ils s'y répètent dans les formations de l'inconscient, voire dans les mots du sujet, dit Lacan dans les comptes rendus du séminaire au pire. C'est cette répétition des uns qui permet au sujet de s'aviser que cet inconscient-là est le sien. Mais cette répétition ne lui permet pas de les totaliser. Le sujet sait que cet inconscient est le sien parce qu'en tant que savoir, il affecte son corps. Revenons au passage de l'étourdi. Comme je l'ai déjà mentionné, dans ce texte, Lacan distingue deux dires. D'un côté, un dire qui existe au dit analysant, à savoir la demande. De l'autre côté, l'interprétation qu'il met au singulier. Il y en a deux dires séparés, peut-être, c'est comme ça que je l'entends. Et il ajoute qu'ils ne sont pas du même ordre logique. La demande est modale, tandis que l'interprétation est approfondie. Qu'est-ce que cela veut dire? Lacan précise que la demande enveloppe de son modal l'ensemble des dits analysants. Ce qui veut dire que les dits de la demande sont articulés autour des modes empruntés par Lacan à la logique classique, à savoir les possibles, impossibles, nécessaires et contingents. Lacan nous indique même l'ordre dans lequel les dits de la demande sont, disons, distribués, parce qu'il dit qu'il apparaît l'impossible contingent et le possible nécessaire. Le verbe apparier signifie aller par pair. Cette sorte de chicane modale de la demande distribue les cartes de ce que l'analyse pourra obtenir à partir des dits analysants. Car elle montre ce que l'analyse peut faire cesser, ici et ce qu'elle ne parviendra pas à faire cesser, à savoir les nécessaires symptômes et l'impossible du rapport sexuel. Selon le passage de l'étourdi, l'interprétation efficace met à sa place la fonction propositionnelle, c'est-à-dire grand phi de x. Cette jouissance, dans notre vie de tous les jours, disons, est castrée, je le cite Lacan dans le compte rendu, elle est castrée, c'est-à-dire symbolisée par la fonction imaginaire qui incarne l'impuissance, autrement dit, des phallus. Il me semble que mettre la fonction propositionnelle à sa place, c'est faire sortir les sujets de cette place qui vit comme de l'impuissance et les faire passer à l'impossibilité logique qu'incarne réel. C'est une formule déjà bien rabâchée, je le sais, mais l'enjeu est quand même bien là. En tout cas, pour ces tournants de l'analyse auxquels je fais référence aujourd'hui. Cependant, une analyse ne programme pas forcément ces virages. Les sujets peut choisir de rester en suspens. La mise en place de la fonction phallique est située par Lacan dans l'ordre logique du contingent. Et c'est ces contingents qui pourraient, de façon indirecte, démontrer l'impossible. Si cela est contingent, cela veut dire que, dans une analyse, cette mise en place peut avoir lieu ou pas. Ce qui amène Lacan à affirmer dans son intervention au congrès de l'EFP de 1973 que c'est justement dans les modes du contingent, dans ce qui cesse de ne pas s'écrire, qui réside notre chance. Pourquoi? Parce que c'est là, dit-il, que peuvent se produire les points nœuds, les points de précipitation qui feraient que les discours analytiques aient enfin son fruit. Comment doit-on alors interpréter pour avoir une chance de modifier les rapports du sujet à la jouissance liée à la parole? Il me semble que ce n'est pas par hasard que Lacan nous livre une grande théorie de l'interprétation dans l'étourdi, que l'on résume souvent avec l'expression d'interprétation équivoque, à savoir homophonie grammaticale et logique. Cela nous donne des indications du comment interpréter pour avoir la chance de toucher ce qui doit être interprété. Il y a des pistes pour l'emploi, disons, mais pas de garantie de produit. Cependant, si l'interprétation est aussi un dire, cela signifie qu'elle est aussi existentielle. Autrement dit, le dire de l'interprétation ne peut pas être incarné dans une formule énoncée, si mince soit-elle. C'est peut-être aussi à cause de cela que Lacan parle tout au long de ses textes en termes de coupure, coupure topologique. Que les dires de l'interprétation soient aussi existentiels m'amène à dire qu'il pourrait s'y produire, à un moment de l'analyse, une interprétation qui existerait à toutes les autres interprétations qui l'ont jalonnée. Cette interprétation-là interpréterait ainsi l'analyse tout entière, non comme gain de sens, mais comme une coupure que je dirais vraie, dans le sens qu'elle réalise vraiment, c'est-à-dire réalise de façon approfondie. Je veux dire par là que le dire de l'interprétation est efficace s'il touche le dire de la demande qui s'y trouve dès lors déprécié, capitonnant ainsi la suspension jouissive du déchiffrage qui faisait l'économie du réel. Le dire résultant de l'analyse serait ainsi un dire nouveau, assurément moins demandant. C'est dire nouveau, entre guillemets, hein, est le fruit de l'analyse et d'aucune autre pratique de parole. C'est la transformation de ces dires que l'on peut parfois laisser entendre dans un témoignage de passe, avec l'impossible que cela comporte de traduire en mots ce qui leur existe. Ni l'analysant ni l'analyste ne peuvent dire exactement comment tout d'un coup tout a changé pour les sujets et son analyse. Mais cela ne peut arriver que si l'analyste reste à sa place et que les sujets en soient décidés. Mmh.